Donc nous sommes ici au début d'une retraite qui est de durée différente pour les uns et les autres, puisque certaines personnes passeront 4 semaines, d'autres 3, d'autres 2, d'autres 1 semaine uniquement. Donc il va s'agir de, pour nous d'être tous ensemble dans cette exploration. Et s'il est vrai qu'on peut imaginer des durées différentes, finalement, dans la pratique, on est toujours dans un seul instant. Donc ça ne fait pas vraiment de différence d'être là pour tant de jours ou d'être pour moins de jours, puisque l'expérience se situe à chaque instant. Mais quand même, dans le premier soir d'une retraite comme celle-ci, aussi un peu plus longue pour certaines personnes, donc il est aussi important de parler peut-être, aussi pour les personnes qui sont nouvelles, d'un inconfort qui peut surgir. On arrive et puis voilà, on est là pour quelques jours, ou les personnes qui sont nouvelles, qui connaissent peu de monde, alors que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se connaissent. Pour beaucoup de personnes, c'est un peu retrouver une sorte de famille au sens large. Pour d'autres personnes, c'est se trouver dans un monde un peu étrange. Pour les personnes qui n'ont pas fait ou jamais fait de retraite, évidemment, la structure d'une retraite est assez étonnante. Donc nous venons par des chemins différents jusqu'au moulinage pour être assis là où vous l'êtes en cet instant. Avec dans le fond des bagages, pas seulement les bagages que vous avez laissés dans votre chambre, mais aussi ces bagages que vous avez en vous-même en cet instant, qui peuvent être très différents. Pour certaines personnes, c'est confortable, c'est retrouver ses marques et autres. Pour d'autres personnes, c'est un peu inquiétant, un petit peu bizarre. On arrive dans ce lieu-là et c'est important de ne pas nier ceci, d'en tenir compte. Dire, tiens, voilà, c'est pour moi, c'est un peu bizarre ici, un peu étrange. Ou pour d'autres personnes, tiens, le confort est moins bien ici qu'ailleurs, etc. Cette manière qu'on peut avoir d'évaluer dans le fond l'extérieur. D'en faire une sorte de critère. Des manières de se donner le temps d'entrer dans une retraite, c'est d'évaluer, de réévaluer le lieu, le cadre, etc. Prends le temps de repeindre un peu les murs avant de commencer à méditer. On change un petit peu ceci, on change un petit peu cela. Être dans cette attitude de se perdre dans l'évaluation du cadre, on a une bonne excuse pour ne pas se rencontrer soi-même. D'abord, il faut rencontrer le cadre. Et puis quand on est un peu en paix avec le cadre, avec le groupe, alors bon, il n'y a plus grand-chose à faire si ce n'est que de se rencontrer soi-même. Et dans le fond, ça peut très bien être le temps nécessaire pour certains ou certaines pour entrer en retraite. Ah, tiens, je me donne le temps, dans le fond, de... Sans évidemment se complaire, parce qu'on pourrait très bien faire ceci pendant longtemps, mais en se disant, tiens, là, ça ne sert à rien de forcer, tout en se rappelant, dans le fond, pourquoi est-ce que je suis ici. Parce que si c'est juste pour le cadre et le confort, bon, il y a d'autres possibilités, à mon avis. Peut-être même plus intéressante. Donc cette réticence, ou bien au contraire, cette excitation de retrouver des amis et le cadre, dans le fond, c'est ce avec quoi on commence la retraite. On ne commence pas la retraite par ce qui n'est pas là. On ne commence pas la retraite par une sorte d'attitude idéale, dans un lieu idéal. Il n'y en a pas d'ailleurs, je n'ai jamais trouvé de lieu où personne ne trouve quelque chose à redire, donc il n'y a pas de lieu idéal en tout cas pour tout le monde. Donc quelquefois ce chaos qu'on peut ressentir au début, quelquefois il est plus grossier, quelquefois il est plus subtil à l'intérieur de soi-même, me semble toujours un très bon point de départ. J'ai l'impression que c'est dans la mesure où on danse un peu avec ce chaos, c'est-à-dire qu'on va s'y disposer, on peut y être présent, que tout d'un coup, on va être vraiment en contact avec soi-même, dans toute la richesse qu'il y a. Si on veut se rencontrer que dans le calme, dans la tranquillité, dans la béatitude, on risque de passer à côté de la retraite. Mais si on veut se rencontrer dans ce qui est là à chaque instant, alors rien ne manquera à chaque instant. Alors, à chaque instant, il y aura une découverte qu'on pourra faire. Et ce danger est important de, dans le fond, d'avoir, d'une manière ou d'une autre, des sortes d'idéal de perfection, d'abord à propos du lieu, de la technique, des enseignants. Puis quand on a épuisé ceci, ben c'est par rapport à soi-même. Tel idéal de perfection qu'on ne se reconnaîtrait même plus. Et il n'y a pas de rencontre à ce moment-là. Donc c'est important de remettre en perspective. Je pensais, en préparant ces quelques mots, en me disant, tiens, quelles sont les retraites que j'ai faites? J'en ai fait pas mal et je me rappelais d'une retraite au Népal où il y avait Patricia et Joseph Goldstein et quelques enseignants de méditation. Et on n'était plus très jeunes d'ailleurs, ni les uns ni les autres. La retraite donnée par Sayadaw Pandita avait lieu dans un temple qui n'était pas terminé. Ça veut dire qu'on dormait par terre sur un parterre de briques qui était complètement inégal et sur une natte. Il n'y avait pas de fenêtre, donc il faisait quand même assez froid, c'était en février aussi. On était là, tous les hommes dans une chambre, toutes les femmes dans une autre chambre. On ne peut pas dire que le confort, c'était vraiment extraordinaire. Même pour le niveau du Népal, on pouvait trouver mieux. Donc il y a toujours moyen de comparer à d'autres choses. Je vous donne un lieu de comparaison, si vous voulez, si vous avez besoin d'un lieu, en voilà un autre. Je peux vous en donner un autre, à Bodh Gaya, la première retraite que j'ai faite. La salle était tellement petite, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas plier les genoux. Il fallait laisser les genoux comme ceci, parce qu'autrement, on atterrissait à moitié sur la personne de gauche ou de droite. On n'a pas arrêté le nombre de participants, voilà, non, ça c'est plein, non. Un peu comme dans les métros et autres, mais ça c'était une sorte de wagon pour l'éveil, quoi. Mais il y avait du monde. La plupart des gens sont descendus avant le terminus, d'ailleurs. Voilà, simplement pour mentionner qu'on peut, si on veut, imaginer comment ça pourrait être mieux. C'est un peu une perte de temps parce qu'il faut qu'on se rencontre là où on est, dans ce qu'on est. Et cette rencontre est toujours enrichissante. Là où on n'est pas, à qui on n'est pas, c'est toujours appauvrissant. On a l'impression parfois que dans la méditation, il s'agit de polir un petit peu cette personne pour qu'elle soit vraiment super. Tous les ongles sont arrondis, ça va vraiment donner quelqu'un de super, comme quelqu'un d'autre finalement. Alors que dans le fond, dans notre pratique, il s'agit de se rencontrer avec toute la richesse de ce que nous sommes, dans notre particularité. Et ça, c'est déjà un grand aide pour la pratique, quand on veut bien se rencontrer là où on est, pour qui on est, qu'on ne veut pas rencontrer quelqu'un d'autre sur notre coussin de méditation. Soi-même, mais améliorer et retoucher. Je me rappelle d'une phrase d'Oscar Wilde qui disait: si j'étais quelqu'un d'autre, il n'y aurait plus personne pour être moi-même. Donc voilà, autant être soi-même et occuper cette place, quoi. Mais aussi, une phrase d'un grand maître de la tradition hassidique qui disait: avec la venue au monde de chaque personne, quelque chose de nouveau, d'unique vient au monde, quelque chose qui n'est jamais apparu auparavant, qui n'apparaîtra plus jamais. Et ça, c'est le respect de ce qu'on a dans notre particularité, quelle qu'elle soit. Alors, il y a quelque chose d'unique dans ce que nous sommes, d'incomparable. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien que d'autres, c'est juste pas la même chose, c'est juste unique. Et que c'est ce que nous rencontrons dans notre méditation. C'est cet aspect de particularité. On s'assied, peut-être qu'il y a de la somnolence, peut-être qu'il y a de l'irritation, mais tout ce qui fait un petit peu les caractéristiques qui se passent en cet instant même, non pas de manière générale. Et c'est lorsqu'on peut rencontrer C'est lorsqu'on peut se rencontrer dans ce que nous avons de singulier, avec toute cette richesse, qu'on va découvrir quelque chose qui est de l'ordre plus universel, qui est l'essence de ce que nous sommes, qui est liberté. Mais ça, on ne le trouve pas en sortant de soi-même pour découvrir une liberté abstraite. On la découvre lorsqu'on est complètement en phase, lorsqu'on est complètement ouvert à la découverte de nous-mêmes à chaque instant, dans ce qu'il y a de singulier dans cet instant, sans s'y attacher, mais en se rendant compte, en étant ceci, ce qui nous permet de découvrir cet aspect essentiel. Donc ça souligne bien qu'il ne s'agit pas de transformer, de manipuler, de s'améliorer, c'est pas ce dont il s'agit. Peut pas y avoir de cours de perfectionnement en méditation. C'est simplement là, c'est s'ouvrir dans l'instant pour découvrir cette richesse qui est là à chaque instant. Ce qui fait la méditation, ce n'est pas le contenu d'instant en instant, ce n'est pas ce qu'il y a de particulier. Ce qui fait la valeur de la méditation, c'est cet aspect essentiellement de liberté. Mais ceci, on peut le rencontrer que lorsqu'on rencontre ce qu'il y a de spécifique à chaque instant. Hein? Ma somnolence, mon inquiétude, mon irritation, mon agitation, mon calme, ma tranquillité, ma joie. Peu importe. Qu'il y ait agitation ou tranquillité, inquiétude ou sérénité, ceci ne dit rien par rapport à ma liberté. Ça dit simplement qu'il y a de la quiétude ou de l'inquiétude. Et que ce qui fait l'enjeu de la méditation telle que nous la pratiquons ici, c'est la liberté. Qui se découvre uniquement lorsqu'on s'ouvre à chacune de ces expériences. C'est quand même une assez bonne nouvelle, hein. Rien ne manque à chaque instant. Pas du mince, quand même, si j'avais plus de ceci ou de cela, non? Rien ne manque. C'est aussi un peu surprenant, parce qu'en général, on fait quelque chose quand il manque quelque chose. Et là, on pourrait dire que si on pratique la méditation, c'est parce que on est toujours en excès de vouloir autre chose, en excès de réaction contre ce que la réalité présente nous amène. Donc on essaye, au moins à titre d'hypothèse, une autre stratégie. Et si on arrêtait de se fermer à ce qui est dans l'instant et de penser que ça serait meilleur d'une autre manière? Si on se disait, et alors qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Mais souvent, on va quand même essayer. Je comprends bien ça, voilà, je comprends bien ce qu'il dit, c'est super. On s'assied, mais on essaie d'améliorer un petit peu. En attendant, j'améliore un tout petit peu. Quand même, voilà, d'accord, l'inquiétude, c'est super, ou un peu d'irritation, d'accord, voilà, mais. Voilà, elle va se calmer. Quand c'est qu'elle va se calmer, quand même? Manière de traiter nos vécus comme si c'était des objets dont on peut se débarrasser. Alors que chaque vécu, qu'il soit de l'ordre de l'inquiétude ou de la sérénité, n'est jamais qu'une manière d'être, qu'on peut ni acquérir, hein, dont on ne peut pas se débarrasser. Lorsqu'on refuse l'expérience présente, ou qu'on en veut une autre, qui est aussi une manière de refus, ce qu'on refuse, c'est sa manière d'être. Et là, il manque quelque chose dans notre vie. Ce qui manque, dans le fond, c'est la plénitude de ce que nous sommes. Alors on en veut plus, puisqu'on a l'impression qu'il manque quelque chose. Et plus on en veut plus, plus il manque quelque chose. quand on veut quelque chose qui n'est pas là, on se trompe dans le jeu. Perpétue une confusion. Qui est exactement celle qui nous entrave, qui nous conditionne. L'essentiel de ce que nous sommes, cette liberté, n'est pas dépendant de l'expérience d'inquiétude ou de quiétude, d'irritation ou de tranquillité. Et si on se préoccupe de ceci, à ce moment-là, on rate l'essentiel. Même si on peut développer par moments la tranquillité, de la joie, l'immense tranquillité ou paix, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si on croit que c'est l'enjeu, alors à ce moment-là, ça devient une autre source de confusion, une autre contrainte, une autre chaîne qu'on ajoute. Quand évidemment, on reviendra là-dessus tout au cours de cette retraite. Il y a vraiment dans l'attitude quelque chose d'inhabituel pour nous. Et c'est bien ce qui fait la richesse de la méditation. Ce n'est pas l'attitude habituelle qu'on pourrait avoir dans, je ne sais pas, l'artisanat est autre chose, si je veux dire un artisanat qui veut produire quelque chose de particulier. Tout ce qui viserait à faire surgir quelque chose, qui se préoccuperait du but. Parce que c'est notre être qui est en jeu, et cet être, il est toujours déjà là. Et ça ne sert à rien de s'agiter pour le trouver, il est déjà là. S'agite pour le trouver alors qu'on est exactement celui ou celle qui s'agite. Quand même quelque chose d'assez surprenant. Voilà, donc on va développer ceci, même en mentionnant certaines approches qui peuvent aussi parfois être utiles lorsqu'on est dans une certaine confusion ou difficulté. Mais je crois que l'attitude essentielle, c'est important de la comprendre. Ce n'est pas l'expérience qui est l'enjeu, c'est la liberté dans l'expérience qui vient de la présence. Quelle que soit, qui peut être éprouvée quelle que soit l'expérience. Voilà, on va passer à quelques minutes d'assise pour commencer. Je vais donner quelques indications, si pour les personnes qui sont nouvelles. Donc lorsque vous fermez les yeux et que simplement vous êtes ouvert à ce que vous découvrez, qu'est-ce qui se passe là, à l'endroit où vous êtes assis ou assise? Il y a évidemment quelque chose qui se passe. Quand vous n'êtes pas là, rien ne se passe sur le coussin. Mais quand vous êtes là, il y a quelque chose qui est vécu, qui est éprouvé. Et le fait que quelque chose soit vécu, éprouvé, montre bien qu'il y a là une présence. Cette présence ou cette conscience qui permet d'éprouver quelque chose, qui fait que quelque chose soit éprouvé. Est-ce qu'on peut découvrir ceci à chaque instant? Qu'est-ce qui se passe en cet instant pour moi? Quelle est la qualité de l'esprit qui médite? Simplement pour s'y ouvrir, pas pour réagir. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue, un peu de somnolence, un peu d'agitation ou d'inquiétude? de l'impatience. Au contraire, une sorte de détente, d'apaisement. Prenez simplement conscience de ce qui se passe en vous-même en cet instant. Essayons de l'éprouver, de le sentir plutôt que de l'observer. Une manière d'être là, somnolent, apaisé, légèrement inquiet. Il y a aussi évidemment une dimension tangible à notre expérience. Nous existons de manière concrète et tangible. Donc on en fait l'expérience de ceci. L'expérience de densité, de poids ou de température. Manière d'exister extrêmement riche que d'exister concrètement. Donc sentir le corps dans sa totalité. Et si des pensées surgissent, simplement reconnaissez-les. Tiens, je pense, ou il y a des pensées. Ce n'est pas un défaut du comportement humain, c'est une grande richesse. Mais je n'ai pas nécessairement envie de m'y intéresser en cet instant. Voilà, il y a des pensées, c'est une manière d'être. Et puis on peut s'intéresser à cette manière d'être tangible, plutôt que de vouloir suivre le train de pensée. pouvez aussi, si vous le souhaitez, sentir une onde particulière du corps dans l'abdomen ou la poitrine. Il y a une vie qui se manifeste sous l'impact de la respiration. Sentir dans cette zone-là la vie. En choisissant une zone, sans alterner de l'une à l'autre. S'il y a un peu de fatigue ou de somnolence, ceci révèle aussi qu'il y a bien une présence là où vous êtes assis. Un défaut est aussi un type de vécu qui peut surgir.